de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, on se rencontre avec moi, Tiwi, et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, voici le journal d'aujourd'hui. On commence par le titre. L'Inde a enregistré l'augmentation la plus élevée de COVID-19, 90 000 cas en 24 heures. 17 morts dans une explosion de gaz à la mosquée du Bangladesh. Wonderful Indonesia est présente à l'exposition culturelle internationale de Pékin. Bali doit trouver un équilibre entre la santé et l'économie, a déclaré le personnel spécial du président. Le mouvement de porter des masques renforce la confiance des touristes en Indonésie. Bangka Belitung développe le tourisme à bateau mentas pour la captivité des tertiaires. Pertamina exporte 200 000 barils de carburant vers la Malaisie. Et voici les journaux incomplets. L'Inde a enregistré plus de 90 000 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé de dimanche. Il s'agit du plus haut pic quotidien de COVID-19 en Inde depuis que la pandémie a frappé le pays. À ce jour, les infections à la COVID-19 en Inde ont atteint 4,11 millions de cas, avec 70 626 décès, plus de 1065 nouveaux décès. Ce chiffre est proche du nombre de cas signalés par le Brésil, qui est actuellement le deuxième pays le plus touché au monde, avec plus de 4 millions de cas. Au total, 17 citoyens ont été confirmés morts dans une explosion dans une mosquée du district de Narayangan, Dhaka, Bangladesh. Des dizaines d'autres victimes sont toujours traitées à l'hôpital en raison de graves brûlures. Le coordinateur de l'unité des brûlés, Samantha Lal Sen, a été rapporté par English Al Arabiya dimanche que 17 personnes, dont un enfant, sont mortes après avoir subi des brûlures. Le nombre des morts pourrait augmenter car nombre d'entre eux sont dans un état critique. L'explosion de vendredi soir aurait provoqué une fuite de gazoduc. Le nom Wonderful Indonesia est présent à l'exposition culturelle internationale de Pékin, la Chine, du 5 au 9 septembre 2020. La pandémie n'a pas entravé les activités de l'ambassade d'Indonésie à Pékin. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Jauhari Oratmangun à Antara dimanche dernier. Les produits de qualité supérieure d'Indonésie qui sont présentés dans l'exposition intitulée « La 5e exposition culturelle internationale de Beijing du monde coloré », entre autres, les nids de suif, le café, la nourriture et les boissons à base de noix de coco et divers autres types de limons et de boissons gazeuses. Des vêtements indonésiens nationaux et traditionnels, tels que le batik et le kebaya, ont également été portés par des membres de l'ambassade d'Indonésie au Dharma Wanita Persatuan de Pékin lors de l'événement qui s'est tenu au complexe du stade olympique. L'exposition est le premier événement de classe internationale à se tenir à Pékin depuis l'épidémie de COVID-19 à la fin de 2019. Plus de 30 représentants de pays étrangers à Pékin ont participé à l'activité. Le coordinateur du personnel spécial du président de la République d'Indonésie, Ari Dwi Payana, a déclaré que le gouvernement provincial de Bali devait maintenir un équilibre entre l'application de gaz et de freinage entre la santé et l'économie. C'est ce qu'a déclaré Ari Dwi Payana lors d'une réunion avec le gouverneur de Bali Iwayan Koster, le vice-gouverneur Chokorda Oka Arta Ardana Sukawati, accompagné du secrétaire régional de la province de Bali, qui est également le président quotidien du groupe de travail COVID-19 de la province de Bali, Dewa Made Indra Ajaya Shabah Denpasar dimanche dernier. Ari Dwi Payana a déclaré que le président Joko Widodo continuait de faire de la gestion de la crise sanitaire dans le contrôle de la pandémie de COVID-19 comme une priorité. Cependant, les efforts de relance du secteur économique doivent continuer à être faits. Le député à la politique stratégique du ministère du Tourisme et de l'économie créative ou l'Agence du tourisme et de l'économie créative Kurleni Ukar a souligné dimanche que les mouvements BISA et JPM ont été lancés comme une forme d'adaptation aux nouvelles habitudes de voyage au milieu de la pandémie de COVID-19. Kurleni Ukar a souligné qu'actuellement, l'Indonésie entre dans l'adaptation de nouvelles habitudes. Donc, tout le monde doit être prêt avec 3M, à savoir menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, en français, utiliser des masques, maintenir la distance et se lever les mains, y compris en voyage. En outre, elle a également déclaré que ces deux mouvements ont été lancés pour renforcer la confiance des touristes nationaux et étrangers que les destinations touristiques en Indonésie ont bien mis en œuvre les protocoles de santé. Le gouvernement provincial des îles Bangka Belitung développe l'attraction touristique de Batu Mentas en tant que lieu de captivité pour les saltateurs Tarsier Bangkanus et lieu de la culture de la fleur menacée de Belitung afin d'augmenter les visites touristiques. Le gouverneur des îles Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, lors de sa visite à Batu Mentas Belitung dimanche dernier, a vraiment admiré la beauté naturelle de Batu Mentas car la zone touristique n'est pas seulement le lieu de captivité pour les tarsiers, mais aussi le lieu où grandir diverses autres espèces de flore et de faune rares et menacées telles que le corne, les oiseaux ciel, les écureuils claras et les plantes forestières typiques de la région. Il a dit qu'actuellement, Batu Mentas devient populaire parmi les touristes locaux et même nationaux car il a une beauté charmante. Selon Erzaldi Rosman, Batu Mentas, qui est situé au pied d'une montagne escarpée, a un énorme potentiel en tant que destination touristique intégrée. L'unité 5 de la raffinerie de Pertamina Balikpapan exporte des produits de soufre à 50 ppm de diesel à grande vitesse vers la Malaisie. L'exportation initiale de 200 000 barils ou l'équivalent de 31 800 kilolitres vaut 9,5 millions de dollars américains ou l'équivalent de 143,15 milliards de roupies. Citant Antara dimanche dernier, le directeur général de l'unité de raffinage 5 de Balikpapan, Eko Sunarno, a déclaré que les exportations étaient l'une des réponses aux défis auxquels Pertamina a été confrontée pendant la pandémie du coronavirus. Eko a révélé que ce produit est le résultat de la fraction diesel de l'unité secondaire de la raffinerie RU5 Balikpapan, qui a une qualité de soufre de 50 parties par million ppm, ou l'équivalent du produit diesel standard Euro 4. Il s'agit du dernier carburant pour moteur diesel jamais produit par l'unité de raffinage 5 RU5. En plus des produits diesel aux normes Euro 4 et d'une qualité de 0,005% de soufre ou 50 ppm, ce produit Pertamina présente d'autres avantages, à savoir un indice de cétane de moins 50 ou un indice de cétane de moins 53 et un point d'éclair de moins 60 degrés Celsius. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui intitulé « Créer de l'air pur pour un ciel bleu ». Chers auditeurs, la pollution atmosphérique est un problème auquel sont confrontés tous les pays du monde. La fumée des véhicules motorisés et des usines ainsi que les incendies de forêts sont la cause de la pollution atmosphérique. Pour le moment, la situation est devenue préoccupante. En fait, l'OMS appelle la pollution de l'air le tueur silencieux. Diverses études montrent que la pollution atmosphérique peut causer des graves problèmes de santé allant des dommages aux cellules du corps, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer du cerveau, des fausses couches aux problèmes de santé mentale. L'impact de la pollution de l'air est si grave que l'Assemblée générale des Nations unies, ONU, a adopté la résolution de la Journée internationale de l'air pur pour le ciel bleu le 19 décembre 2019. Ensuite, l'Organisation mondiale de la santé OMS, en collaboration avec BirdLife, une campagne mondiale de sensibilisation aux risques sanitaires liés à la pollution, a organisé la première commémoration de la Journée internationale de l'air pur pour le ciel bleu aujourd'hui, 7 septembre 2020. Au début de la pandémie de COVID-19, de nombreux pays dans le monde ont procédé à des confinements en mettant en œuvre des politiques de maintien au foyer. Cette condition améliore la qualité de l'air dans plusieurs villes du monde. La pollution atmosphérique a diminué et l'environnement est devenu plus propre qu'auparavant. Cependant, de nos jours, alors que plusieurs pays ont commencé à s'ouvrir et à permettre à leur population de mener diverses activités à l'extérieur de la maison. La qualité de l'air a diminué et la pollution de l'air a de nouveau augmenté, même dans certains endroits plus qu'avant la pandémie de COVID-19. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son message à l'occasion de la Journée internationale de l'air, a déclaré que des changements dramatiques et systémiques sont nécessaires en renforçant les normes politiques et lois environnementales afin de prévenir l'augmentation de la pollution atmosphérique. Antonio Guterres a également conseillé aux pays du monde de mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles. L'Indonésie, qui est l'un des pays à haut niveau de pollution, a fait des efforts pour réduire la pollution de l'air, en particulier celle des véhicules à moteur. L'un d'eux consiste à développer des voitures électriques. L'Indonésie est considérée comme disposant de ressources naturelles qui peuvent être utilisées pour créer une indépendance dans le développement des batteries des véhicules électriques. Compte tenu de l'importance d'utiliser une énergie respectueuse de l'environnement pour les véhicules, il est temps pour la communauté de passer progressivement à la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles en utilisant l'électricité ainsi que des énergies nouvelles et renouvelables. Les efforts visant à créer un air pur et exempt de pollution ne sont pas seulement faits par le gouvernement. Les gens peuvent le faire entre autres en réduisant l'utilisation des véhicules motorisés et en passant au transport en commun. De plus, planter plus d'arbres, arrêter de fumer et ne pas brûler les ordures. Espérons que les efforts déployés tant par le gouvernement que par la population pourront réduire la pollution atmosphérique et créer un air pur pour le ciel bleu. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire. Bonsoir à tous. Bientôt, je vais vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi, Audrey. Et on commence avec l'événement du 7 septembre 1901, la rébellion des boxeurs. La rébellion des boxeurs, c'était seulement en Chine de novembre 1899 au 7 septembre 1901, contre les puissances étrangères dans les secteurs du commerce, de la politique, de la religion et de la technologie. Le boxeur a commencé comme un mouvement anti-étranger, anti-impérialiste et pesant dans le nord de la Chine. Ils attaquent les étrangers qui construisent des chemins de fer et violent le feng shui ainsi que les chrétiens qui seraient responsables de la domination étrangère en Chine. En juin 1900, Boxer a attaqué Pékin et tué 230 non-chinois. De nombreux chrétiens chinois et catholiques ont été tués dans les provinces du Shandong et du Shaanxi dans le cadre de la rébellion. Le protocole Boxer du 7 septembre 1901 a mis fin à la rébellion et a imposé de sévères sanctions à la dynastie Qing, telles que l'indemnisation de 450 millions de taels d'argent. L'existence de ce protocole a grandement influencé les conditions politiques, économiques et sociales du gouvernement et de la population chinoise à cette époque. La suite, on continue avec l'événement du 7 septembre 1940, la naissance d'Abdurrahman Wahid. Cher ami, Abdurrahman Wahid, ou qui est familièrement appelé Gusdur, est né à Jombang, Java orientale, le 7 septembre 1940. Il est une personnalité musulmane indonésienne et un dirigeant politique qui est devenu le quatrième président de l'Indonésie de 1999. À 2001. Il a remplacé le président B.J. Habibie. Après avoir été élu par l'Assemblée consultative du peuple lors des élections générales de 1999, l'administration de son gouvernement est assistée par le cabinet de l'unité nationale. La présidence d'Abdurrahman Wahid a commencé le 20 octobre 1999 et s'est terminée lors de la session extraordinaire du Conseil représentatif du peuple indonésien en 2001. le 23 juillet 2001, sa direction a été remplacée par Megawati Sukarnoputri après la révocation de son mandat par le Conseil représentatif du peuple indonésien. Abdurrahman Wahid est l'ancien président du Tanfizia, c'est organe exécutif de Nahdlatul Ulama et fondateur du parti politique PKB. Chers auditeurs, on termine l'histoire d'aujourd'hui par l'événement du 7 septembre 2004. Mounir, un militant indonésien des droits de l'homme, est mort d'un empoisonnement à l'arsenic sur un vol Garuda Indonesia de Jakarta à Amsterdam. Chers auditeurs, Mounir Saïd Talib Al-Khatiri est né à Malang, Java orientale, le 8 décembre 1964. Il est décédé à Jakarta dans un avion en direction d'Amsterdam aux Pays-Bas le 7 septembre 2004 à l'âge de 39 ans. Cet homme d'origine arabe est également un activiste indonésien des droits de l'homme. Son dernier poste était celui de directeur exécutif de l'Institut indonésien de surveillance des droits de l'homme impartial. Lorsqu'il a siégé au Conseil des Contras, son nom s'est élevé en tant que combattant pour plusieurs militants portés disparus à cette époque. Le corps de Mounir a été enterré au cimetière public de la ville de Batu Malang, Java orientale. Serge Littard, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Tanya, kau malah geram. Takkan sengaja aku buat dirimu marah. Namun kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah. Sendiri. Oh, yeah. Kalau ada maunya, jangan seperti itu. Tak ada manusia yang dapat tahu apa pikiranmu. Ku tahu engkau tak merasa seperti pantas kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah diriku, kemana hilangnya dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah diriku, kemana, kemana hilangnya dirimu, hilangnya dirimu. Hey! Ku jadi sendiri, hubungi semua teman-teman, teman-teman sendiri. Sali langkah, kemana? di sendiri.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, la suite, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie. Et pour le titre, l'Indonésie et l'Australie signent un accord pour développer les énergies renouvelables. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, a signé un acte d'accord avec la Société australienne de l'industrie du minerai de fer de Fortescue Metals Group, ou FMG, pour développer les énergies renouvelables pour soutenir l'industrie verte. La signature a été réalisée par le ministre de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, le fondateur de Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, au bureau du ministère de coordination des affaires maritimes et de l'environnement, Jakarta, vendredi. Luhut Panjaitan a déclaré dans son discours que la signature de cet accord montre la relation étroite et stratégique entre l'Indonésie et l'Australie. Il croit que ces efforts renforceront la base de partenariat pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Luhut a déclaré que grâce à l'acte d'accord, il y aurait un groupe de travail conjoint pour faciliter, accélérer et réaliser l'investissement de FMG dans la construction de centrales hydroélectriques de 60 gigawatts et de 25 gigawatts d'énergie renouvelable à partir de l'énergie géothermique en Indonésie. Selon Luhut, l'Indonésie et l'Australie ont le potentiel pour les minéraux et les énergies renouvelables afin de pouvoir collaborer et devenir des acteurs clés de l'industrie des énergies vertes et renouvelables sur la scène mondiale. Il estime que l'accord encourage un développement durable qui allie le développement économique, progrès social et protection de l'environnement. Outre que la signature de l'acte d'accord, une lettre d'intention a également été signée entre les deux parties pour réduire les fuites de déchets plastiques dans les eaux indonésiennes. La signature de la lettre d'intention a été réalisée par le député chargé de la coordination de l'environnement et de la gestion forestière au ministère de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Nani Hendiyarti et Andrew Forrest. Selon Luhut, Andrew Forrest, par le biais de la Fondation Mindero, a apporté des contributions significatives à plus de 280 initiatives dans le monde entier, en fournissant environ 2 milliards de dollars australiens, y compris dans des initiatives majeures pour les océans. Luhut estime que la signature de la lettre d'intention renforcera encore la politique indonésienne visant à réduire considérablement les fuites de déchets plastiques dans les eaux indonésiennes. Pendant ce temps, le fondateur de Fortescue Metals Group, Andrew Forrest, a déclaré que le développement des énergies renouvelables est un effort humanitaire visant à créer un environnement durable. Il a dit que dans un effort pour résoudre les déchets politiques, il y aurait une coordination de traitement des déchets plastiques avec un certain nombre de sociétés multinationales et le premier prototype serait lancé en décembre. Pendant ce temps, les projets de la centrale électrique et d'énergie renouvelable devraient soutenir une industrie verte qui améliore les compétences des main-d'œuvre indonésiennes. De plus, cela crée de nouveaux emplois pour les Indonésiens. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Thank you.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture des diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons un objet touristique dans la province de Java centrale, Lawang Sewu. Restez à l'écoute. Chers auditeurs, Semarang est la capitale de la province de Java centrale. Cette ville est la cinquième plus grande ville métropolitaine indonésie après Jakarta, Surabaya, Medan et Bandung. La ville a de nombreuses destinations touristiques allant du tourisme naturel, le tourisme religieux aux visites historiques. L'un des plus célèbres des tourismes historiques à Semarang est Lawang Sewu qui a été construit à l'époque coloniale hollandaise. Lawang Sewu a été fondé le 27 février 1904 en tant que bureau central de NIS, l'une des compagnies ferroviaires des Antilles néerlandaises. Ce bâtiment a des fenêtres hautes et larges, ressemblant à une porte, de sorte que la communauté environnante appelle ce bâtiment Lawang Sewu, qui signifie « mille portes ». Bien que le bâtiment s'appelle Lawang Sewu, ce bâtiment n'a en réalité que 429 portes. Le bâtiment a été abandonné. Lawang Sewu a finalement été restauré à la fin de juin 2011 et rouvert au public le 5 juillet 2011. C'est parce qu'il a été construit comme bureau central de Nice, l'histoire de Lawang Sewu est inséparable du chemin de fer en Indonésie. Après l'indépendance de l'Indonésie, ce bâtiment est utilisé comme bureau de jawatan kereta api Republik Indonesia ou Dakari, ou maintenant appelé PT Kereta Api Indonesia. Il a également été utilisé comme bureau de l'infrastructure du commandement militaire régional et bureau régional du ministère des Transports de Java Central. Pendant ce temps, pendant la lutte, ce bâtiment est devenu un témoin silencieux des événements de la bataille de 5 jours à Semarang. Par conséquent, le gouvernement de la ville de Semarang en 1992 a inclus Lawang Sewu comme l'un des 102 bâtiments historiques dans la ville de Semarang qui devrait être protégé. Lawang Sewu est situé dans le complexe de Tugu Muda, sur la rue Pemuda, Semarang Central, la ville de Semarang, Java Central. Précisément situé au cœur de la ville de Semarang. Ainsi, l'accès aux destinations touristiques est assez facile. Lawang Sewu est ouvert tous les jours de 6h à 21h. Pour le prix d'entrée, il coûtera 10 000 rupiah par un adulte, tandis que les étudiants et les enfants, le prix est 5 000 rupiah par personne. Si vous voulez entrer dans le sous-sol, cela vous coûtera 30 000 rupiah par personne et pour louer un guide, vous devez payer 30 000 rupiah. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Lawang Sewu dans la province de Java Central. Merci de votre attention. À demain.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est membeli peralatan mandi. Je répète, membeli peralatan mandi ou en français, acheter des outils de toilette. Bonne étude! Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est membeli peralatan mandi. Membeli peralatan mandi ou en français, acheter des outils de toilette. Au petit magasin, Kevin achète un savon, une brosse à dents, un dentifrice et un shampooing.
Permisi, Bu.
Ya?
Mau beli peralatan mandi, ada?
Ada. Butuhnya apa?
Sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan sampo.
Ini?
Berapa total belanjaan saya?
Rp50.000.
Ini uangnya. Terima kasih.
Sama-sama.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Membeli peralatan mandi. Membeli peralatan mandi, ou en français, acheter des outils de toilette. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Mau beli. Mau beli signifie veux acheter. Peralatan. Peralatan signifie des outils. Sabun. Sabun signifie le savon. Sikat gigi. Sikat gigi signifie la brosse à dents. Pasta gigi. Pasta gigi signifie le dentifrice. Shampoo. Shampoo signifie le shampooing. Mau beli sepatu. Mau beli sepatu signifie veux acheter des chaussures. Berapa harganya? Berapa harganya signifie combien ça coûte? 200.000 rupiah. 200.000 rupiah signifie 200.000 rupiah. Mencari sandal jepit. Mencari sandal jepit signifie chercher des tongs. Quand vous allez acheter une chose, vous pouvez dire « Saya mau beli ». Saya mau beli. En français, « Je veux acheter ». Saya mencari. Saya mencari signifie « Je cherche ». Apakah ada? Apakah ada? En français, « Est-ce qu'il y a ?» Et si vous voulez demander le coût de vos achats, dites berapa total belanjaan saya? Berapa total belanjaan saya? En français, combien coûte mes achats? Berapa semuanya? Berapa semuanya? Signifie combien coûte tout? Berapa harganya? Berapa harganya? En français, combien ça coûte? Par exemple, saya mau beli sepatu ini. Berapa harganya? Saya mau beli sepatu ini. Berapa harganya? Qui signifie, je veux acheter ces chaussures. Combien ça coûte? Harganya 200.000 rupiah. Harganya 200.000 rupiah. Signifie le prix est de 200.000 rupiah. L'autre exemple, saya mencari sandal jepit. Apakah ada? Saya mencari sandal jepit. Apakah ada? En français, je cherche des tongs. Est-ce qu'il y en a ici? Si vous demandez comme ça, on va vous répondre « ada ». Je répète « ada », qui signifie « il y en a ». Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Permisi, Bu.
Ya?
Mau beli peralatan mandi, ada?
Ada. Butuhnya apa?
Sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan sampo.
Ini?
Berapa total belanjaan saya?
Rp50.000.
Ini uangnya. Terima kasih.
Sama-sama.
Syarzami, Voilà l'émission Apprendre l'Indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. On se rencontrera demain dans le sujet est différent. Merci de votre attention. Au revoir. Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Et cette fois, vous allez écouter une chanson keroncong intitulée Solo di Waktu Malam. Cher ami, Surakarta ou Solo est une ville de la province de Java centrale. Cette chanson keroncong tente de décrire l'atmosphère de Solo la nuit. Quand la nuit tombe, il y a beaucoup de beaux endroits de confort à trouver dans cette ville. Les artistes ont été créatifs jusqu'à ce que le faible son du gamelan se fasse entendre. Telle que l'ambiance nocturne de la ville de Solo, qui est admirable par les visiteurs. Sans retard, voici la chanson Kronchon Solo di Waktu Malam, chantée par M. Brifani. Bonne écoute. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Thank you.
Bon, chers auditeurs, c'est l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'avoir écouté notre émission. Au revoir.